hommage à Worms.
Brock prêt!
Brick prêt!
Brack prêt!
Allez les verts, il faut prendre cette colline! Brick!
Présent!
File à toute allure avec tes grenades et balance ça dans la tranchée adverse. Ensuite, prends ton parachute et descends la colline du crâne et pose une mine dans le cratère. Go, go, go!
D'accord!
Brack, prends ton bazooka. Pointe le 35 degrés direction S et pillonne les positions adverses. Saute trois fois en l'air et creuse une galerie souterraine avec ton chalumeau.
Oui, chef!
Et moi, je vais attendre ici, histoire que les choses se passent.
Game over.
De la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette édition du lundi 1er juin 2009 de votre magazine hebdomadaire sur le monde ludique puissance maximale. Vincent Langlois au micro et je suis en compagnie de François Gécouillard.
Salut Vincent, toujours un plaisir.
Et oui, François est avec nous. On a également Alexandre Bélanger.
Hello.
Bonjour, et on va faire un petit tour de table pour voir ce qui va se passer à l'émission aujourd'hui. Moi, de mon côté, vers la fin de l'émission, on va pouvoir parler de jeux vidéo. Moi, je vais parler de deux jeux vidéo que j'ai testés. En fin de compte, c'est la fameuse chronique de la semaine passée. On n'en parlera pas trop. Le jeu Sacred 2 et Punch-Out de Nintendo qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et on a même une invitée surprise ici en onde aujourd'hui qui va nous parler d'un événement qui s'est passé en fin de semaine, je crois. Hein?
Oui, donc les Journées de musique de Québec, c'est Chantal Campagna, alias Fräulein Evil.
Wouhou!
Oh, en direct avec nous en studio.
Le son est bon, vous pourrez entendre toute sa belle voix là, en qualité.
Et oui, même pas de téléphone, rien du tout, directement au micro. Alexandre, de ton côté, de quoi vas-tu nous parler?
Aujourd'hui, je parle, comme d'habitude, d'un compositeur de musique de jeux vidéo. Et il s'appelle Hirokazu Tanaka, mais je vais en parler en de plus amples détails plus tard pour vous expliquer qui est ce bonhomme.
Excellent. Et on devrait avoir également Mathieu Place qui va venir faire une petite chronique avec nous dans le courant de l'émission. Alors, les journées ludiques se sont passées en fin de semaine à Québec. C'était la cinquième édition. Et François, tu y as participé. Et également, Chantal, vous y avez participé.
Ben oui. Donc, Chantal, qui était en comité organisateur, là, raconte-nous un peu ton expérience. Comment ça a été, justement, là?
Bien, cette année, cinquième édition des Journées ludiques de Québec, ça a été absolument fabuleux. Comme habituellement, c'était fabuleusement organisé. Moi, personnellement, je ne suis pas sur le comité organisateur, mais je dois leur lancer des fleurs. Moi, je suis présidente à vie du jury du concours de création qui en était cette année à sa troisième édition. Donc, le jeu gagnant se mérite le prix le plus prestigieux sur l'échelle interplanétaire. le Plateau d'Or cette année. On avait une cuvée extraordinaire, un grand millésime. C'était vraiment très, très agréable. Donc, le jury a passé la journée de samedi à tester les 5 jeux qui avaient été sélectionnés, donc les Final Fives.
Et là, on s'entend, t'as passé toutes les règles au peigne fin, là.
En fait, le comité organisateur fait une première pré-sélection sur toutes les entrées. Cette année, on en a reçu 35, qui est quand même un bon nombre, si on tient compte que c'est un concours québécois.
Il y a certains jeux qui ont jusqu'à 19 pages là, de règles.
Il y avait des jeux, il y avait des jeux avec des règles qui étaient assez touffues. Disons que certains arbres y ont laissé leur peau. Mais tout de même intéressant, une grande diversité des jeux pour enfants, des jeux vraiment très, très musclés, des jeux plus famille. Tout était au rendez-vous. Donc, sur les 35, 20 ont été pré-sélectionnés. Le jury est passé à travers les 20 règles, ont fait une sélection de 10 pour finalement en retenir 5, les Final Fives. Et ce sont ceux-là qui ont été joués dans la journée de samedi par le jury, qui se sont tapés une journée extraordinaire de jeu, mais tout de même assez fatigante, on doit dire.
Ils n'ont pas beaucoup dormi. Et là, il y a eu deux prix qui ont été remis, les Plateaux d'Or, dont un pour le jury, un Plateau d'Or du jury et un Plateau d'Or du public.
Oui, le prix du public, c'est intéressant parce que les créateurs sont sur place avec leurs prototypes et ils font jouer les gens qui se présentent aux journées ludiques. Ces gens-là, ensuite, vont voter pour le jeu qui leur a le plus plu à la fin de la journée. On va compter les votes. Cette année, le prix qui s'est mérité, le jeu qui s'est mérité, le prix du public est Pompéi. Un jeu à vocation familiale. C'est un jeu d'exploration, donc
Exploration minière. Et là, c'est leur premier jeu, en plus, qu'ils ont créé, ces deux créateurs-là, Jean-François et Vincent.
Oui, ce sont, en fait, deux... C'est leur premier jeu. Ils étaient assez contents de la réaction du public. C'est un jeu où on joue le rôle d'archéologue qui explore Pompéi. Et on essaie de vendre les artefacts qu'on découvre en cours de jeu au musée. Et c'est de cette façon-là dont on va... comme ça qu'on va récolter des points de prestige. Évidemment, très, très apprécié du public. Cette année, 94 personnes ont voté pour les jeux, pour les prototypes. Donc, on voit que quand même, c'est un bel échantillonnage. C'est un prix qui était amplement mérité. Pompéi fonctionne très, très bien. C'est un beau jeu familial, intéressant, stimulant, avec un matériel d'une qualité absolument extraordinaire.
Et d'ailleurs, les créateurs, c'est des gens de Limoilou, c'est des gens de théâtre. On va avoir une entrevue avec eux, peut-être dans les prochaines semaines, on la passera. Sinon, ça va être disponible sur puissancemaximale.com. Sinon, le prix du jury, celui qui a attiré ton attention, Chantal, et sûrement ceux des autres membres du jury.
Bien, le prix du jury cette année, c'était un consensus, en fait. Tous les membres du jury ont été absolument bouleversés par le simple simplicité des règles. C'était d'une élégance désarmante. C'est un jeu qui fonctionne extrêmement bien, un petit jeu de majorité avec des parties qui sont courtes, très stimulantes, pointage très serré. On voit que c'est un produit qui a été très léché, en même temps réfléchi, qui a été excessivement aussi testé auprès du public. Donc, c'est un produit, en fait, qui pourrait être prêt à mettre sur les tablettes. Il ne suffit qu'il soit édité. De toute beauté, le jeu s'appelle Richelieu et c'est de l'auteur Olivier Lamontagne, qui avait d'ailleurs remporté le prix, le Plateau d'Or l'an passé aussi avec Poison. Donc, un back-to-back, c'est notre Tom Hanks des jeux. mais il le méritait amplement, son jeu Richelieu. C'est vraiment démarqué, a pris la tête de peloton, mais de loin.
Ouais, d'ailleurs, Olivier Lamontagne, on le salue. Hein, probablement que ça va être un champion créateur de jeux de plateau au Québec. Là, c'est peut-être notre prochain Marc Wallace, là, un truc comme ça. C'est,
Marc, Martin Wallace, sacrilège!
Et donc, on salue Olivier Lamontagne. On va avoir aussi une entrevue avec lui. Dis-moi, là, faut pas passer sous silence un truc qui est sorti justement en fin de semaine, les listes d'or, ce qui va être un concours de création de jeux de plateau. un autre concours, si je ne m'abuse. Peux-tu nous en parler un peu?
En fait, l'Hélice d'or se veut le penchant québécois des Spiels de Jerez. Donc, ce qui va se passer, c'est que les distributeurs et les éditeurs qui sont au Québec vont pouvoir soumettre des jeux francophones pendant toute l'année. Et il y aura deux jurys, donc un jury pour les jeux pour enfants et un jury pour les jeux familiaux et aussi les jeux pour joueurs plus expérimentés, qui vont tester ces jeux qui vont être soumis à la longueur d'année. À la fin de semaine ludique de Granby, donc la deuxième fin de semaine de septembre, il y aura 5 sélectionnés dans chaque catégorie qui vont être annoncés. Et au mois de novembre, il y aura un grand gagnant qui sera annoncé. Donc, pour faire le parallèle avec les Spiels de Jerez, évidemment, qui sont le concours du jeu de l'année en Allemagne. Donc, ça risque d'être assez intéressant.
C'est un concours très prestigieux en Allemagne, il faut le dire.
C'est un concours qui est très, très prestigieux en Allemagne. En fait, gagner un Spiel de Jerez assure des ventes absolument extraordinaires aux jeux sélectionnés. Mais, comme on sait, ça ne sera pas très long avant que le Lys d'or le surpasse au niveau du prestige, tout comme les plateaux d'or sont très, très prestigieux et beaucoup plus prestigieux que l'As d'or de Cannes, par exemple, maintenant.
Donc, il suffit seulement que les jeux soient faits en français et puis on peut les soumettre à ce concours-là.
Oui. Puis les jeux doivent avoir été édités entre deux dates butoirs et avoir été présentés au jury. Okay. Les jurys vont les évaluer, vont les jouer et ensuite en sélectionner 5.
Fait que là, vous avez compris, peu importe où ce que vous êtes, si vous êtes au territoire du Nord-Ouest ou à l'Anticosti, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on salue tous les gens de CIVR, CIJBE.
Qui nous écoutent.
Ils peuvent fournir des jeux de plateau. Hein. Stimulons la création d'un jeu de plateau dans la francophonie.
Ils peuvent même se déplacer pour les différents jeux, soit à Granby, même à Québec l'année prochaine.
Ben oui, ils pourront venir. Mais sinon, ben écoute, Chantal, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être dans cette espèce d'aventure?
Ben en fait, j'aimerais souligner cette année que pour la première fois, donc on disait tantôt que les Plateaux d'or en étaient à leur troisième édition. Cette année, on a un auteur français, mais un vrai français de France, là, qui s'est déplacé pour venir présenter son prototype cette année. Il faisait partie des 5 sélectionnés. Et quand il l'a su, une semaine à l'avance, il s'est acheté un billet d'avion. Hey, il a fait le voyage de Paris pour venir passer la fin de semaine avec nous. Lui nous présentait Vin Marchand de Beaune, un beau jeu de gestion sur le vin, évidemment, qui était vraiment très, très, très bon, qui était d'une très haute qualité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le prestige des Plateaux d'or a maintenant traversé la mer et les Français sont vraiment à l'affût de ce concours. Ils sont très intéressés et ça, c'est quand même un bel accomplissement après seulement 3 ans d'existence.
Vraiment intéressant. Donc, on a même des gens d'Europe qui s'en viennent proposer leur jeu aux Journées ludiques de Québec.
Oui, ça s'en vient big, hein, les Plateaux d'or. Je pense que ça gagne en prestige, ça gagne en grandeur, je pense.
Donc, vraiment.
En grandiosité. Inventons des mots.
Mais écoute, pourquoi pas?
Chantal Campagna, je te remercie beaucoup. Et puis, j'aimerais ça féliciter toute l'équipe, là, les organisateurs des Journées ludiques de Québec. Parce qu'il faut le dire, il faut insister là-dessus. C'est que c'est tous des bénévoles et ils mettent beaucoup de temps là-dessus, beaucoup de temps à l'organisation. Ils mettent même.
Ce sont des mois de travail, là,
ouais.
Vraiment.
Puis c'est des gens qui sont passionnés du jeu de plateau. Toi aussi, Chantal, t'es une passionnée. Merci d'aimer le jeu de plateau. Merci d'aimer les jeux. Et puis, bonne continuation avec tous les projets qui s'en viennent.
Merci beaucoup, Chantal.
Ça fait plaisir.
Et là, faut le dire, hein, Chantal est là en ce moment, elle va rester sûrement pendant le reste de l'émission. Mais c'est si on fait tirer des jeux, si on donne des jeux, c'est souvent de sa faute parce qu'elle travaille aussi au Valet de cœur. Donc on salue le magasin le Valet de cœur à Montréal sur la rue Saint-Denis.
Wouhou!
Donc voilà, est-ce qu'on s'en va en musique?
On va y aller en musique, François.
Donc la première pièce, c'est toujours celle de Musax, donc notre ami français de Haute-Garonne, musax.info. Il trippe sur la musique de jeux vidéo, il aime ça nous le faire partager, comme Alex Bélanger d'ailleurs. Et puis, on va l'écouter ça, je pense que ça va être une pièce de Need for Speed, c'est la série Need for Speed. Vous écoutez Puissance Maximale.
Need for Speed Underground, appelé aussi NFSU, propose 4 modes de jeu. Du mode course classique sur circuit au mode drift consistant à faire le plus de dérapages, le joueur dispose d'une variété de possibilités pour de longues heures de jeu. Go. Get faster, baby.
so hot. Catch me on the interstate doing donuts. Whoa, smashing the game. Rolling through the city as fast as I can. Gotta play it how it goes. Only problem is watching out for 5-0. Smashing the game. Moving through the city as fast as I can. Ain't got time to play.
What's up?
Ain't got time for game. I'm headed off to the sunset and the combat. The work is going down. Top off, flown, don't even much feel like I'm on the ground. Only ride the brakes around a sexy woman. Cause other than that, I'm gunning, trying to touch 200. I'm in the wind and hell, flying like a. I sip fire, so you only get a glimpse. What all them hundred of hustle, what I'm supposed to do? With all this power, I'm supposed to sue. Dive dirty, cut you off if you let me. With money on the sucker, you ain't supposed to get me. Gotta finish first, yeah, this one's legal. Until my rhythm detector went on. Fall down, Tito. That's the man. But ain't no way you gonna catch me with this nitrogen can. The speed and getting out of hand. I know you wanna stop me, but you ain't got a chance. Smashing the game.
Right.
Moving through the city as fast as I can. Gotta play it how it goes. Only the problem is watching out for 5-0. Smashing the game. Rolling through the city as fast as I can. Ain't got time for game.
What's up?
Ain't got time to play.
La puissance maximale sur les ondes de CKIA et peut-être que vous nous écoutez sur CIVR et sur CJBE. Et nous allons passer tout de suite à la chronique d'Alexandre Bélanger, musique de jeux vidéo. Alexandre.
Hey, bonjour à vous.
Salut.
Salut.
Salut Mathieu. Hey, Mathieu n'était pas là. Salut Mathieu.
Et oui, Mathieu est arrivé durant la chanson.
Ben oui.
Et aujourd'hui, je vous parle d'un monsieur qui s'appelle Hirokazu, alias Hip Tanaka.
Hip.
Oui, et encore une fois, c'est un monsieur important dans l'industrie du jeu vidéo japonais, c'est d'origine japonaise.
Oui.
C'est un compositeur assez prolifique, qui a surtout été prolifique à l'époque du Famicom, c'est-à-dire du Nintendo Entertainment System, régulièrement appelé comme ça ici. Et c'est un compositeur assez prolifique à l'époque, mais il est surtout connu. Oui, on entend. Oui, oui, oui. Excellent. Il est surtout connu pour les musiques de Metroid.
Oui.
Et vous
c'est
entendez...
ça qu'on entend, là? C'est ça? Ouais. Metroid?
Ça, c'est le premier Metroid, là.
Oui, là, Metroid. On l'entend tirer, là. Ouais.
Qui a atteint un statut mystique en 2009. Et donc, Hirokazu Hip Tanaka était tout d'abord un ingénieur électronique. C'était quelqu'un qui était un programmeur avant d'être un musicien, quoi, qui avait quand même une base musicale apprise durant son enfance.
Il a joué de la flûte à bec.
Non, il y a eu des leçons de piano pendant 5 ans. C'est un schéma un peu classique pour beaucoup d'enfants qui apprennent du piano pendant 5 ans. Et plus tard, monsieur est devenu sérieux et est allé à l'université apprendre la programmation. Et il est devenu ingénieur sonore. Et c'est un autre junior, pour rimer, qui a commencé sa carrière avec Nintendo. En tant qu'ingénieur de son. Et au début de sa carrière, lui, c'est un détail très important pour la suite. Lui, c'était un programmeur de son. Et il faisait ça en assembleur, le langage.
Le langage absolument hallucinant, là, avec des... qui est absolument incompréhensible, même pour le plus aguerri des programmeurs.
Exactement, qui faisait les sons en assembleur à cette époque-là, en 78-80. Non, c'est à partir de 80. Et ce point-là est très important parce qu'il va toujours rester avec les sons qu'il aura créés en tant qu'employé dans sa librairie de sons. Il aura créé une grosse librairie de sons. Il va toujours être attaché à cette librairie-là. Et ben, on l'entend un peu dans Metroid, on entendait des sons.
Oui, c'est ça. On voit qu'il y a beaucoup d'échantillonnage. C'est pas vraiment l'échantillonnage, en fait. C'est vraiment des sons particuliers, là. On parle de quelle année à peu près?
86 dans ce cas-là. C'est pas sa première expérience. Sa première expérience est pour un jeu très connu, encore une fois. Il s'agit de Duck Hunt.
Oh, c'est lui qui a fait le fameux Duck Hunt.
Oui, et dans Duck Hunt, il y avait beaucoup d'effets spéciaux, aussi d'effets sonores. C'était sa spécialité avec les effets sonores.
On s'appelle du chien qui rit.
le petit jingle qu'il y avait une fois que tu avais réussi un tableau, des petites choses comme ça. Oui, le chien qui rit, le son du fusil, bien sûr, qui clenche. Mm. Mais c'était vraiment une particularité de sa part. À l'époque, là, en 86, il était le plus prolifique des compositeurs. Il avait écrit à peu près un tiers des compositions sorties sur le Famicom. Et ça, c'était en 86, c'est avant que ça arrive en Amérique encore. Mais déjà là-bas, au Japon, c'était en vigueur et très important là, dans les foyers des gens. Et donc, on entend avec Metroid l'ambiance. Et beaucoup de sons, beaucoup d'ambiance, c'est très, très
obscur,
effrayant.
Hein?
Ouais, c'est obscur. Obscur, c'est un bon mot. C'est schizophrénique à un certain
point. Schizophrénique.
Et ça va avec le sentiment qu'on a quand on joue à ce jeu-là, c'est d'être enfermé dans le noir.
C'est vrai, hein?
Dans un labyrinthe. Et c'est difficile d'en sortir. Et t'es seul dans le noir. Dans Metroid, avec des espèces de sons du futur, on sait pas où.
C'est vrai qu'il y avait toute une ambiance particulière. Hein? Puis les bébites étaient étranges. Hein? C'était pas des petits champignons ou quoi que ce soit. C'était des, des espèces de fourmis atomiques bizarres.
Mutants, un peu.
Des amibes.
Oui.
Oui, dans l'espace, bien sûr. Et bien, cette musique-là est une réaction. À l'époque, la musique devenait de plus en plus musicale dans les jeux vidéo. Et lui, il était pas d'un bain content de la façon que ça se développait parce que lui, il voulait demeurer, là, il voulait que ça demeure avec des sons. Il voulait que les sons électroniques gardent leur emprise dans le jeu vidéo. Il avait vraiment une vision de programmeur.
C'est ça, lui, c'était un mécanicien, un mathématicien, si on veut, opposé à un artiste, ben, plus ou moins. Là.
Ouais.
C'est ça, c'est pas vraiment... C'était lui-même un musicien quand même, là, mais il avait le côté mathématicien, si tu veux.
Beaucoup plus développé que les autres. Et c'est pour ça que sa musique est vraiment à part des autres, parce que lui, il a réutilisé ses librairies. Justement, le détail de tantôt, les librairies écrites en assembleur, tout ce qu'il y avait sur les projets sur lesquels il avait travaillé, dont Donkey Kong Junior, tous les sons, Balloon Fight, là, toutes sortes de classiques pour lesquels il avait créé des sons qui sont mémorables. Mm-hmm. Et... Oh, je vous sortirais des sons, vous seriez capable de les deviner. Hein?
Non, mais je suis certain, on a pas mal tous grandi avec ces jeux-là, puis c'est resté dans notre mémoire à long terme, disons.
Notre subconscient, peut-être. Même là.
La partie nostalgique du cerveau, hein.
C'est ça.
Qui est très utilisé de notre côté.
Mais ben, c'est vraiment ce qui a fait qu'il s'est démarqué, c'est en utilisant ces librairies composées en assembleur, qui sont vraiment des sons intégrés à la musique. Et la musique devait être vraiment en concordance avec les sons produits par le joueur. Et c'est la particularité de ce compositeur-là, qui est tout à fait unique. Mais lui, malheureusement, n'est pas resté dans l'industrie, tout ça. Il a fait Earthbound.
Oui, Earthbound.
Mmh. Oui, un jeu avec quand même des bonnes musiques, mais des musiques très étranges. Et ça donne souvent ce genre de résultat-là, des musiques énigmatiques, profondes, bizarres, desquelles on peut pas mettre un doigt dessus en disant c'est quoi le style, c'est quoi ça exactement.
Et est-ce qu'on peut dire que ça a survécu, son style? Est-ce qu'il y a eu une sorte de dynastie Tanaka ou... Non, pas du tout.
Difficilement. Mais la musique de Metroid est restée à l'histoire.
Je trouve que ça a spécialement bien vieilli parce que ça exploitait bien l'effet étrange, synthétique du son au départ. Là. Il essayait pas de transposer un son de guitare ou de violon. Là. C'était vraiment la pureté du son électronique. Là. Fait que c'est pour ça que je pense que ça a bien vieilli. Là.
Ça a bien vieilli, mais ça s'est répercuté dans d'autres projets. Les Super Metroid, toute la série des Metroid ont utilisé ces compositions musicales. Mais le style, peut-être pour évoquer le rétro, mais je peux pas dire, parce que là, aujourd'hui, on est dans l'orchestration, on est dans un autre monde au niveau des jeux vidéo. Donc, je peux pas dire qu'il y a une dynastie ou un héritage Tanaka. Quoique, quoique on pourrait se lancer dans des exceptions japonaises et tout, mais et, je peux vous nommer là, les derniers projets, ça a été Mario Paint Earthbound sur lequel il a travaillé, et peut-être le jeu de combat Super Smash Brothers là, qui mettait en vedette tous les personnages de Nintendo, sur lequel il y a eu une collaboration spéciale. Mais lui, aujourd'hui, ça, la fin de sa carrière s'est annoncée avec sa participation à Pokémon, à la série Pokémon TV, pour laquelle il a écrit des compositions. Et là, il est entré en conflit avec Nintendo. Et Nintendo, même s'il produisait le jeu Pokémon, il produisait pas la série animée Pokémon. Donc, là, tu dois faire un choix. Et il a décidé de partir avec Pokémon. Et aujourd'hui, il est président de Creatures Inc., qui est la compagnie de cartes qui vend des cartes Pokémon.
Oh, fait qu'il doit être, il doit avoir de l'argent.
Ben oui, c'est ça. S'il a pensé avoir un petit pourcentage sur tous les projets qu'il vient de nommer, là, il doit être riche comme Crésus. C'est Crésus qui était riche.
Bon, on parle d'une vedette. Était, oui. On parle d'une vedette quand même aussi. Là, c'est quelqu'un de connu et de probablement riche aussi. Là,
un peu comme nous quatre ici. sommes...
C'est exactement ça.
Oui,
nous avons du temps et nous parlons de jeux, donc...
Et ben, c'est ce qui met fin pas mal à ma chronique, sauf que je dois mentionner, bien sûr, la pièce que j'ai choisi de diffuser aujourd'hui à Puissance Maximale. Une excellente pièce, la pièce d'ouverture du jeu Metroid, qui illustre tout à fait mon propos. Alors écoutez bien ça, et à tout de suite à Puissance Maximale.
Chronique de Mathieu Place.
Le retour de Mathieu Place cette semaine, qui va nous parler de...
Tron! Oui,
Tron. Tron, le nom me dit de quoi, mais je n'ai pas d'image dans la tête.
Ben voyons, Vincent, là, c'était un des grands films là, des années 80, là, en fait, début des années 80, et puisque, en fait, 1982 pour être plus précis, et puisqu'on fait beaucoup dans la nostalgie, surtout dans ma chronique, eh bien, j'ai décidé de vous faire revivre le film Tron, parce que, bon, il y a quelque chose qui s'en vient, là, tu sais, c'est pas seulement la nostalgie. En 2011, ils sont supposés sortir Tron 2. Alors, c'est ça. Là, ils sont encore en train de se poser la question, est-ce qu'ils vont appeler ça Tron 2 ou Tron 2.0? Alors, ils trouvent que Tron 2.0, c'est une bonne idée parce que là, ça fait référence au monde des logiciels, etc. Mais c'est un peu trop geek et peut-être que des gens vont être rebutés par ça. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de films des années 80 qui sont revenus, revampés pour l'actualité. Alors, par exemple, vous avez Goonies là, qui va sortir bientôt. Goonies 2. Ben, moi, je suis pas sûr d'être d'accord. d'accord, là, on en parlera, là, ça je suis pas tout sûr.
Ils sont tous rendus à 35 ans, puis ils s'en vont encore à la recherche de...
Ben, selon ce que j'ai entendu, c'est que le scénario met en scène les enfants des Goonies. Alors, ça va être les enfants des Goonies qui vont chercher des trésors, etc.
On n'a jamais vu ça ailleurs, là. Degrassi, Nouvelle Génération et tout ça. Bon,
okay. Ben, c'est ça, moi ça me fatigue, parce qu'il me semble ils ont déjà un gros succès, ils ont déjà un film culte, alors oui. ils vont juste le diluer en faisant le deuxième.
Alors, est-ce que tu penses que ce qui va arriver avec Tron?
Non, je pense que Tron, on va passer au travers, parce qu'on est juste trop content de voir Tron réalisé avec des effets spéciaux véritables, faits à l'ordinateur. Parce que là, c'est sûr qu'à l'époque, là, le Tron, en 1982, là, le Tron qui a été fait à cette époque-là, là, c'était vraiment primitif là, comme effets spéciaux. Là, je vais juste vous donner quelques exemples.
Pourtant, c'était une révolution. Hein,
c'était une révolution, mais ça...
C'était connu comme tel.
C'est ce qui rend ces types de films-là un peu mythiques, justement, là, le fait que ça a été fait avec... Tout ce qu'on avait à l'époque, là.
Oui, ben c'est ça. Tout ce qu'on avait à l'époque. Déjà, il y avait deux parties dans l'imagerie de Tron. Bon, je vous rappelle un peu, là, c'était un personnage qui était programmeur, un petit peu rebelle. Et puis, à un moment donné, il se retrouve plongé dans un jeu vidéo. Et puis là, je me souviens plus très bien, là, il doit sauver la princesse. En tout cas, il doit combattre des gens avec un disque. Il doit leur lancer
dessus. Ouais, ça me revient tranquillement.
Bon, vous avez des motos, des jeux de motos, etc. Alors, c'est vraiment... c'est ça. C'est une histoire épique, mais dans le monde des jeux vidéo. Et puis, bon, ça a été réalisé de la manière suivante, c'est que vous avez deux sortes de séquences. Vous avez des séquences qui étaient faites, effectivement, à l'ordinateur. Et puis, vous avez des séquences aussi qui étaient filmées, tout simplement, en noir et blanc, qui étaient colorées par la suite, avec une espèce de machine qui rendait les choses un peu plus lumineuses. Alors, c'était plus ou moins fait à l'ordinateur. Les parties qui sont faites à l'ordinateur, à l'époque, on pouvait pas animer. On pouvait pas faire d'animation à l'ordinateur. C'était juste des images qui étaient répétées les unes après les autres, comme un film d'animation. Mais l'affaire, c'est que chaque image devait être codée. En fait, il y avait 150 coordonnées à entrer par le réalisateur du film, là, entrait 150 coordonnées pour chaque seconde de film. Wow. Alors, c'est ça. Fait que là, c'était tout un travail titanesque. Alors, à l'époque, vous avez aussi, des séquences qui sont faites filmées, des séquences qui sont faites à l'ordinateur. Mais un fait étrange de l'époque, c'est qu'ils n'ont pas eu de nomination aux Oscars pour les meilleurs effets spéciaux. Alors, essayez de deviner pourquoi ils n'ont pas eu l'Oscar de nomination aux Oscars.
Ça commence
pour
par
les effets
eux.
Spéciaux.
Hein? Et ouais, la réponse, ça commence par eux.
Non, en fait. Je vais vous le dire, là, parce que c'est vraiment difficile à comprendre à l'époque aujourd'hui. Là. Ils n'ont pas eu de nomination aux Oscars parce que les gens des Oscars considéraient qu'ils avaient triché parce qu'ils avaient utilisé des ordinateurs. Alors, ça comptait pas parce que c'était des effets spéciaux faits à l'ordinateur.
Ah, alors, mon Dieu, alors qu'aujourd'hui, on en est...
C'est ça, maintenant, tous les effets spéciaux sont faits à l'ordinateur.
Je croyais que la réponse était E.T.
E.T.? Mais...
Oui.
Ah, ben non, et... en fait, il aurait pu être poussé par E.T.
Ça aurait pu, c'était pas mal dans les mêmes années aussi.
C'était pas mal les mêmes années, effectivement.
Mais quand même, il faut voir l'esprit puritain de la chose à l'époque. On ne pouvait pas dépasser...
Ben, c'est ça, j'imagine.
Mais est-ce que E.T. justement a eu recours à ça, des ordinateurs à l'époque ou à des effets spéciaux du même type?
C'était une marionnette là, pour la plupart des séquences. Ensuite de ça, il y avait un vaisseau spatial.
Oui, qui était peut-être plus une maquette.
Peut-être
donc,
une maquette faite à la manière de Star Wars.
Mais moi, je dois vous avouer quand même, petit à côté, ça m'a pris du temps avant de vraiment apprécier les films faits à l'ordinateur. Parce qu'au départ, c'était vraiment pas très beau. Je parle de ceux des années 90, là, quand on a commencé à voir arriver les choses. J'aimais pas vraiment, puis j'aimais beaucoup plus le fait qu'on utilise des vraies choses dans la vie pour pouvoir faire justement les effets.
En effet. Oh, oui, c'est sûr.
Mais
c'est sûr.
Avec ce qu'on voit aujourd'hui, avec la qualité des ordinateurs, la qualité graphique qui en ressort aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à voir la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas.
Par exemple, bon, il y a eu évidemment Jurassic Park, je pense que c'était en 95-96.
93
ans, oui. Plutôt que ça. Hein. Bon, c'est ça. Ça a été le premier film où il y avait des grosses séquences qui étaient faites à l'ordinateur, où c'était réaliste. Ensuite de ça, quelques années plus tard, bon, évidemment, il y a eu Gollum là, dans Le Seigneur des Anneaux, où est-ce que tu avais un personnage qui pouvait interagir de manière crédible avec les autres personnages. Avant ça, il y avait eu Jar Jar Binks, mais personne n'y a cru dans les nouvelles séquences de Star Wars. Mais quand Gollum est arrivé, c'est devenu plus intéressant. Ben, écoutez, Tron 2, là, moi j'y crois, 2011, parce que j'ai vu Star Trek, le nouveau Star Trek, il n'y a pas longtemps, là, puis c'est incroyable, c'est vraiment intéressant, tous les effets spéciaux qu'il peut avoir avec ça. Et puis là, d'avoir une espèce de d'effets spéciaux par-dessus la tête avec un Tron 2, moi je le vois, j'ai l'impression que ça va vraiment être intéressant. Et puis si on met toute la gomme, question effets spéciaux, puis qui a une bonne structure quand même narrative. Il y a Jeff Bridges qui va revenir dans le film. Écoutez, tous les ingrédients sont là pour que ce soit
intéressant. Tron, est-ce que ça a bien vieilli?
Le film Tron, ben c'est rétro pas mal. Hein? Si tu regardes Tron, le vieux Tron, là, ça. Oh oui. Puis il y a un problème avec Tron. Hein? Moi, je considère que c'est un chef-d'œuvre raté. Moi, j'appelle ça même désolé là, pour les grands amateurs de Tron. Là. J'ai l'impression que
un bon scénario.
C'est ça. Ben un scénario correct, mais c'est difficile. On dirait qu'à la moitié du film ou aux trois quarts du film, on dirait qu'on perd le fil du scénario. On dirait que moi je l'ai regardé quand j'étais jeune. J'ai regardé à plusieurs reprises depuis quelques temps. Puis on dirait qu'à un moment donné, je comprends plus l'histoire. Puis c'est bête là, parce que je veux dire, je suis un être intelligent. Non, oui. Je sais pas si peut-être je perds le fil, mais c'est ça. On dirait que le scénario, il y a des petites failles dedans, puis les effets spéciaux à un moment donné, ça devient ils deviennent fatigants. Tu sais, c'est très lumineux, très contrasté,
fluorescent.
C'est ça, c'est fluorescent. Alors j'ai l'impression que c'est ça, c'est un chef-d'œuvre raté. Tu sais, tout était là pour devenir un grand film. Il y avait du style, il y avait du quelque chose, mais il manquait des ingrédients. Mais là, Tron 2, ça va marcher.
Donc, on s'attend à la sortie du film, tu disais, en 2011.
2011, voilà. Alors, vous pouvez
avec trouver le retour de Jeff Bridges.
Oui, et petite note en passant, c'est Daft Punk qui va faire la musique. Alors, des grands amateurs des sonorités des années 80.
Ah, ça pourrait être
alors,
très
ça
intéressant.
Devrait être assez intéressant, là. Oui, oui.
Super, merci beaucoup, Mathieu.
Ça fait plaisir.
Et on va passer en musique. François, de ton côté?
Oui, on va aller écouter une pièce. Ça va être la pièce Nerdcore de la semaine. Ça va être encore EBS parce que c'est un chanteur, rappeur Nerdcore français. Alors, il chante en français, alors que c'est encore mieux quand c'est en français. Et puis, il va parler de quoi cette semaine? Il va parler des vieilles arcades. Tu sais, l'époque des arcades.
C'est quoi, Nerdcore?
Nerdcore.
Ouais,
tu vas voir, c'est de la musique sur les jeux vidéo.
Ah, bon.
Donc, on essaie d'en passer une fois par semaine. Et vous écoutez Puissance Maximale.
Allez les gars, Putain, attendez-moi, il prend pas ma pièce. Allez, attendez.
Les courses sont des bornes, avantage de perdant. Il va deux fois plus vite que celui qui se trouve juste devant. Bonne ou mauvaise, fait par des excuses à foison. Perdre ok, mais faut une bonne raison, il reste méprisant. Maintenant un petit jeu de fin, en coopératif. Quand il arrive la mauvaise foi, d'abord ton collègue est fautif. Les adversaires n'en attaquent qu'un. L'autre finira jeu seul à se faire botter l'arrière-train. Le premier fera la gueule sous les rideaux d'une cabine. Un étranger en assiété. J'irai encore de tout ce sang quand j'irai pioter. L'ironie c'est à la sortie, plus la veine de l'été. Les yeux seront si rouges que ceux des zombies que je viens buter.
Bon allez, on y retourne. Allez, juste une dernière fois, on y retourne. Allez, viens.
Retour à puissance maximale et de mon côté, bien, je vais vous parler de jeux vidéo, comme à l'habitude finalement.
Ouais.
Et ouais, s'il vous plaît, la foule en délire.
Ouais.
Alors, deux jeux à vous parler. Premièrement, Sacred 2 Fallen Angel. Pour ceux qui rêvaient d'un RPG là, sur les consoles, c'est enfin arrivé, ça fait longtemps. Il y en a quelques-uns qui étaient sortis sur la PS3 et sur la Xbox 360.
C'est le RPG qui a Blind Guardian dedans. Un groupe de métal, un groupe
oui,
connu de port
oui,
métal.
Oui, ben, j'ai entendu. Oui, c'est très bon comme jeu. Là, je vous en... Vraiment, là, un jeu de rôle à la troisième personne, du style un peu Diablo, World of Warcraft, vous savez, avec la caméra là, qui est au-dessus de nous, puis on peut la rapprocher de nos joueurs, quoi que ce soit comme ça. Et bon, je vais nommer les compagnies rapidement. Là. Premièrement, c'est disponible sur PS3, Xbox 360, et également sur PC pour les jeux de RPG qui aiment bien jouer sur PC. Moi, vous savez que je suis un joueur de console, malheureusement. Et bon, c'est édité par CDV Software et développé par Ascaron, qui est une compagnie allemande. Et c'est un jeu violent un peu avec classé M pour les personnes matures. Et c'est de 60 à 65 $ si vous voulez l'avoir. C'est quoi l'histoire du jeu? En fin de compte, on est un héros. Et on doit guider Ancaria, qui est notre monde, avec une carte incroyable. On n'est pas un dieu, on est un guerrier, un héros, peu importe lequel, je vais vous nommer tantôt les héros. Et on doit guider notre monde en carrière vers l'univers dans lequel on progresse, vers la lumière ou le diriger vers l'ombre.
Okay.
Donc on a une quête de lumière et une quête d'ombre. Et bon, notre monde va bientôt entrer en guerre et grâce à nous, on déterminera ce qui adviendra du royaume.
Ça peut passer au jeu Black and White, dans lequel tu interprétais par contre un jeu et tu avais un royaume à gérer et tu avais des fidèles et puis là tu pouvais évidemment être méchant ou bon.
OK, mais est-ce que c'était un jeu d'aventure ou c'est un jeu plus de gestion?
C'est un jeu plus de gestion.
De gestion, là, vraiment, là, on parle là, d'un jeu d'aventure. Là, c'est tout ce qu'on va faire va dépendre de ce qui va arriver, mais vraiment là, en termes de bataille,
c'est
tout simplement.
C'est plus comme Fable.
Ce jeu-là, ce dont je vous parle, oui, ça ressemble vraiment plus à Fable dans ce style-là. Donc, on a le choix entre 6 personnages. On peut être l'angélique séraphin, qui peut seulement faire la quête de la lumière, malheureusement. Le haut elfe meurtrier. La dryade en communion avec la nature. On a le gardien du temple, le guerrier noir et l'inquisiteur, qui peut seulement faire la campagne de l'ombre. Et c'est un jeu vraiment là, qui prend du temps. Parce que aussitôt qu'on rentre dans le jeu, on a la quête principale qu'on peut faire, mais au fur et à mesure qu'on rencontre, il y a plein de quêtes secondaires.
Tu vas aimer ça, Vincent.
Moi, j'adore. Ça me prend du temps à jouer à des jeux. C'est parfait. J'ai seulement 15% de passé et j'ai déjà plus de 16 heures de fait. Bon, bien sûr, j'ai pris le temps en masse pour faire le test, puis vraiment de pouvoir vous arriver avec un peu plus de stock et de viande autour de l'os. Mais vraiment, là, un jeu super intéressant. Au niveau des effets visuels, l'ambiance, c'est super bien réussi, malgré le fait qu'on joue avec la caméra, qu'on joue au-dessus avec une caméra qui nous survole. Quand on rapproche la caméra, on s'aperçoit que c'est un jeu qui est extrêmement bien défini, tant au niveau des paysages qu'au niveau des personnages, qu'au niveau des ennemis qu'on affronte. Et si on prend la vue en plongée un petit peu plus générale, c'est là qu'on s'aperçoit que le monde est fait de montagnes, de vallons, de rivières, et c'est impressionnant à voir comme jeu. La carte, comme je vous le disais, elle est vaste. On peut découvrir plein de villages, des grottes, des îles, et les couleurs sont extrêmement vives. Et c'est vraiment un jeu. Moi, ça m'a vraiment impressionné. C'est pas un jeu vraiment qui a eu, au niveau des différents sites Internet, une note super élevée. Ouais. Mais moi, je suis quand même satisfait de ça.
Mais dis-moi, là, Vincent, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les monstres qu'il affronte. Est-ce que c'est des monstres inspirés de Donjons Dragon?
Oui, mais en fin de compte, il y a un peu de tout. Il y a des petits gobelins. Bon, il y a même des monstres là, vraiment là, que je n'avais jamais vu. Là, des araignées, des choses comme ça, on en voit tous les jours. Là, mais tu as des monstres à deux pattes. Malheureusement, on n'a pas toujours le nom des même dans le guide du jeu, on n'a pas le nom de tous les monstres qu'on affronte. Mais bon, il y a des monstres à deux pattes qui sont hyper géants, puis ça prend je sais pas combien de ça prend peut-être une minute à défaire là, parce que leur niveau de vie ne descend pas nécessairement rapidement. Et c'est certain que plus on avance dans le jeu en termes de niveau, plus bien sûr, comme à l'habitude, nos ennemis vont être puissants, mais plus il y en aura également. Okay. Autour de nous. Donc, c'est quand même, oui, un fan de Donjons et Dragons qui n'était pas vraiment moi non plus, là, je pense qu'il pourrait se retrouver dans un univers dans lequel il serait intéressé et ça pourrait être un univers intéressant pour lui. Donc, les points forts du jeu, ben, l'ambiance graphique, le son, super. Il y a trois niveaux de jeu, donc un peu comme débutant, médium et avancé. Et nombre de quêtes, là, c'est à couper le souffle. Il y en a près de 600 quêtes au total. Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les RPG, bien, je pense que c'est un excellent jeu pour s'initier à ce type de jeu-là.
Oui, OK, c'est pas pour plugger mon émission de métal, là, mais moi, ben, cette semaine, j'ai parlé de Blind Guardian, mais j'ai pas parlé de Sacred 2. Mais ça, c'était un événement, comme dans l'univers métal, qu'un groupe participe à la création d'un jeu. Et ils ont même un vidéoclip qui est avec le moteur du jeu. Et moi, je veux te demander, est-ce que t'as rencontré Blind Guardian dans le jeu, là?
Non, du tout.
Non, puis tu n'as pas entendu parler encore.
Ben moi, je veux dire, non. Moi, j'ai entendu de la musique qui sonnait vraiment métal, là. Okay. Mais vraiment, là, tu parles-tu d'un personnage? Ils ont-tu créé un personnage en plus?
Ben, on voit un spectacle qui est dans le vidéoclip de Blind Guardian. C'est un spectacle fait dans une salle de spectacle avec des monstres du monde de Sacred 2. Et ce sont eux sur la scène reproduits en bonhomme 3D.
À date, là, ça m'est pas arrivé, vraiment. Je peux te dire que oui, j'ai entendu de la musique qui sonnait vraiment métal. Puis quand tu m'en parles, j'imagine que ça doit être ce groupe-là.
Mais là, je te parle d'un spectacle.
Oui, dans le spectacle, j'ai rien vu de ça. Peut-être c'est quelque chose qu'on peut débloquer ou sur le disque. Ou peut-être c'était seulement sur la version PC que c'était disponible, parce que c'est un jeu qui est sorti sur PC avant. Ça a pris un petit peu de temps avant qu'il s'en vienne sur la version console. Mais si jamais je le vois, bien, je t'en reparle sans problème.
Merci.
Et donc, moi, c'est un jeu là, que je qualifie là, un 8 sur 10. Ou un 8.5 sur 10, ça vaut la peine de l'essayer. Au pire, de le louer avant, si on veut voir c'est quoi. Rapidement, le deuxième jeu, Punch-Out, qui était attendu sur la Wii, ça faisait longtemps. Bon, vous êtes des maniaques des jeux années 80. Punch-Out, un jeu, bon, on sait que l'engin de la Wii, c'est pas la console la plus puissante. Les jeux sont parfois sont pas très, très bien développés. Il y a quelques beaux jeux qui étaient sortis là, dernièrement. Et Punch-Out en est un. On a mis l'accent sur les boxeurs et sur l'arbitre. Et on a laissé faire un peu ce qu'il y avait autour. On sait qu'il y a des gens autour qui nous regardent. On voit quelques personnes bouger. Mais c'est quand même vraiment bien fait. C'est un jeu qui a été développé par Next Level Games, qui est une compagnie de Vancouver. Et ça coûte à peu près une soixantaine de dollars. On peut jouer seul, bien sûr, et on peut même jouer à deux. Ce qui fait de Punch-Out, ce qui fait que Punch-Out est un peu spécial, c'est de pouvoir jouer seul. Donc à deux, je ne l'ai même pas encore essayé, malgré le fait que ça fait un petit bout de temps que j'ai le jeu. L'écran est divisé, puis on se bat contre notre partenaire. Donc moi, je pense que Punch-Out, le but du jeu, c'est vraiment affronter les différents adversaires, puis trouver leur petit truc ou leur petit côté négatif.
Oui, il y avait un aspect casse-tête là-dedans.
En plein ça, parce que ça reste encore comme ça, bien sûr. quand on affronte Glass Joe, qui est le premier dans le premier punch-out, qui est le premier là, pas trop compliqué là. C'est un Français et ça prend pas beaucoup de temps que bon,
il est à terre. C'est ça, c'est presque un tutoriel le premier là, c'est pour vous montrer comment jouer. Ouais.
Mais c'est le retour de Little Max, c'est le même personnage. Donc le but c'est d'affronter à chaque niveau trois boxeurs. Il y a trois niveaux différents. Le niveau du circuit mineur, le circuit majeur, le circuit mondial, et on est dans la World Video Boxing Association. Et bien sûr, on va rencontrer différents personnages qu'on a connus dans les bons vieux Punch-Out, comme je vous disais, Glass Joe, Von Kaiser, il y a King Ippo qui revient aussi, qui est le champion du premier circuit. Donc, on retrouve beaucoup de choses de notre premier Punch-Out, et on peut jouer avec la Wiimote comme si c'était une manette de Nintendo du Entertainment System, le premier. On la place sur, à l'horizontale, finalement, et on joue comme si c'était le bon vieux jeu Punch-Out. Donc, on revient avec la bonne vieille méthode de jeu, mais il est possible également de jouer avec le Nunchuck et la Wiimote dans les mains, comme on joue avec le jeu de boxe qui était sur le jeu de départ de
Wii Sports.
Dans Wii Sports sur la Wii. Et on peut jouer également, donc on a le Nunchuck et la Wiimote dans les bras, et on a le Balance Board, la fameuse planche de Wii Fit, le fameux jeu où on s'entraînait. Bien, en étant sur la planche et en ayant la Wiimote et le Nunchuck dans les bras, on prend ça pour se battre, et en se tassant à gauche, à droite de la planche, notre personnage se tasse, esquive les coups de gauche et à droite. Ça prend un petit peu de temps à s'habituer à ça, parce que c'est vraiment pas évident. On pense qu'on fait juste se pencher, puis ça fonctionne, mais en fin de compte, c'est le poids de ton corps qui fait que tu tournes. Donc, le temps que tu allumes, que tu as juste besoin de peser à gauche ou à droite sur la planche, ça devient un petit peu plus facile par après. C'est quand même bien intéressant, même graphiquement, comme je vous disais, on a mis l'effort sur les personnages, on a mis l'effort sur les adversaires, et on a vraiment du fun. Moi, c'est un jeu au niveau des points forts, la nostalgie bien sûr, hein, quand on a vécu Nintendo, quand on a vécu le Punch-Out du NES, je pense que c'est un incontournable. Comme je vous disais, graphiquement super beau, possibilité de se battre pour vrai, comme je vous disais, avec le Nunchuck, un autre point fort, et on a mis des petits trophées. Donc, une fois qu'on a battu les différents adversaires, c'est possible d'aller dans un mode exhibition et d'essayer de battre, par exemple, un adversaire sans recevoir de coups ou sans esquiver. Et si on fait ça, ben, on ramasse des petits trophées qui nous permettent de débloquer du contenu sur le jeu, que ce soit de la musique, que ce soit des vidéos. Donc, c'est quand même intéressant au niveau de la rejouabilité du jeu.
Est-ce qu'il y a encore la fameuse séquence d'entraînement quand tu gagnais un championnat?
Tu veux dire à la course devant New York?
Oui.
Et ils l'ont refait et il a encore son suit rose en plein ça. Et oui, ils l'ont refait parfaitement. T'as l'entraîneur qui pédale en avant de toi et toi, t'as ton suit mauve, rose.
Ouais,
et ça, c'est la même affaire. Donc, ils ont vraiment rejoué avec ça. L'entraîneur qui mange des barres de chocolat, qui te motive à frapper plus fort. Donc, un beau jeu pour moi là. C'est vraiment, on est retourné dans la nostalgie, on est retombé là-dedans, c'est vraiment bon. Un 8.5 sur 10, ça vaut la peine de l'acheter pour ceux qui ont connu le bon vieux Punch-Out des années 80.
Génial.
Et super. Et c'est ce qui met presque fin à l'émission.
Ouais, peut-être une pièce avant de finir.
On fait une pièce et on revient sur les ondes de CKIA.
Et ça va être une pièce de Damien Robitaille. Et c'est sur la tirée d'une compilation hommage à Nino Ferrer, donc chanteur français. On va aller écouter ça. La pièce s'appelle Et au Imbon. Vous êtes à puissance maximale.
Bon, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon, où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pépé, mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et bon, où est mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Oh, yeah. Une autre fois.
crochets, mes piqûres et mon bonnet. Puis je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait des paroles de cette satanée chanson? Je les ai oubliées, elles doivent être à la maison. Puis je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon, 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 bon.
Et nous sommes de retour à Puissance Maximale. C'est déjà la fin de l'émission. Le temps de remercier tout le monde qui est passé à l'émission aujourd'hui. Et merci à Chantal Campagna qui est venue nous parler des fins de semaine, des journées ludiques à Québec. Merci à Mathieu Place d'être passé également à l'émission. Alexandre Bélanger.
Hello.
Et merci à François G. Couillard à la console.
Merci à toi, Vincent Langlois.
Et ça me fait plaisir. Et on vous dit à tous et à toutes, bonne semaine.
My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D! Fighting with the legends of yore. It's D&D!